Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Il s'appelle Erwan Larrer. Il est écrivain. Et le 13 novembre 2015, il assiste au concert des Eagles of Death Metal au Bataclan. Il est grièvement blessé. Et 4 ans plus tard, dans un livre, le livre que je ne voulais pas écrire, chez Kidam Éditeur, il livre un témoignage absolument non conventionnel, qui ne ressemble à rien de ce que vous avez pu entendre jusqu'ici. Pas de pleurnicherie, pas de sensationnalisme. Un récit brut de décoffrage. Je l'ai écrit avec l'aide de Simon Veil, la réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Le 13 novembre 2015, à 9h29, je poste un message sur Facebook avec un petit extrait de musique. Ce soir au Bataclan, on boit de la mauvaise bière, on saute sur place en braillant « I really wanna be in LA ». Gloire au mauvais goût et au bon rock, j'aurai mes Santiago aux pieds. Vers 20h15, je gare ma Honda Shadow juste devant le Bataclan, sur le terre-plein. Je traverse. Je suis seul aujourd'hui. Les copains n'ont pas pu venir. Je prends le temps de fumer une cigarette. Rewind. Est-ce que j'ai remarqué quelque chose? Quand j'ai fumé cette clope, est-ce que j'ai regardé les voitures garées devant la salle? Est-ce que leur voiture était déjà là? Est-ce que j'aurais pu les repérer? Dans ma tête, j'ai revu 100 fois cette scène. J'ai fumé 100 fois cette clope. Eh ben non. Je n'ai rien noté d'anormal. Non, je n'ai pas eu de sombre pressentiment. J'entre dans le hall. Je montre mon ticket au videur. Je monte les marches. Je dépose mon manteau et mon casque au vestiaire. Et je pénètre dans la salle. Et à partir de là, ça n'est plus mon histoire, plus seulement. À partir de là, guerre, chaos, gros titre racoleur. À partir de là, récupération politique, aux armes citoyens. À partir de là, un avant et un après. À partir de là commence une histoire que je ne voulais pas raconter. Je ne voulais pas apporter mon écho de larmoyance à l'océan émotionnel sur lequel surfent les médias de la société du spectacle. Je ne voulais pas. Mais comme m'a dit mon copain Manuel, tu dois raconter. J'entre dans la salle, pile à la fin de la première partie. Je m'approche du bar. Je peux avoir une bière, s'il vous plaît? Je scanne la salle. Est-ce que je connais quelqu'un? Non, pas ce soir. Et ma mauvaise bière à la main, je vais me poser à droite de la console. Si je suis pris par l'énergie du concert, il sera toujours temps de me rapprocher. Je m'adosse à l'un des poteaux qui soutient le balcon. Je suis bien. Je suis parmi les miens. Je suis parmi mes frères. J'aime cette atmosphère, on est lié par le rock. La fosse se remplit lentement. Je repère tout de suite les vieux de la vieille avec leurs bagous à tête de mort et leur cuir râpé. Une fille passe derrière moi, avec son téléphone. « Mais t'es où ? Je te vois pas, lève la main. Je vois rien, je suis trop petite. » Sont-ils morts aujourd'hui ? L'impatience monte dans la salle. Ça commence à taper dans les mains. Le groupe arrive sur scène. Premier riff. Premier Larsen. Oh putain que c'est bon. Et à 20h40 ou 42 ou 47, ils sont pas fichus de se mettre d'accord. Je me jette au sol. Les gens crient « Couchez-vous, couchez-vous !» Tu te jettes au sol. Et là, tout se superpose, tout s'entremêle. Le bruit de la guerre, sec, mat, atroce. Les étincelles, les éclairs, les cris, l'odeur de chaud, de poudre. Je suis couché au sol, en position fœtale. Je me colle contre la barrière. Les cris, putain. Les cris. Les tirs se rapprochent. Je vois rien. J'entends, mais je vois rien. Je sens aussi le sang, la poudre, âcre, douceâtre. Est-ce que j'ai peur? Sans doute, mais... mais c'est pas de la terreur. J'essaye juste de disparaître contre la barrière, de rentrer dans le sol. Je sais pas si j'ai peur. En tout cas, je prie pas. Je veux pas mourir. C'est certain. Je vois rien. J'ose pas tourner la tête. Bouge pas. Ta gueule. Romain. Ça va? Delphine. Donne des news, je flippe à mort. Sandrine. Erwan, donne de tes nouvelles, s'il te plaît, s'il te plaît. Le chaos, l'enfer, les mots ne peuvent pas habiller cette situation. Sauver ta peau en te faisant petit, invisible. Dans le tumulte, la cacophonie, la puanteur chaude des viscères, petit, tout petit. Tu vas pas y échapper. Une balle de calibre 7,62 tirée à bout portant pénètre dans ma chair à environ 700 mètres secondes, soit plus de 2500 km/h, deux fois la vitesse du son. Donc, la balle est entrée dans mon corps avant que je n'entende la détonation. Faire le mort. Il est au-dessus de toi, putain. La douleur, bordel. Il va m'achever. Il va m'achever d'une balle dans la tête, c'est certain. Pourquoi est-ce qu'il m'épargnerait? Pourquoi? Pourvu que ça fasse pas mal. Pourvu que ça aille vite. Il descend les marches qui mènent à la fosse. Et là, d'un coup, la salle s'allume. Et la balle ne vient pas. La fin ne vient pas. Je le comprends au moment où il éjecte les douilles de son arme. Je suis vivant. La douleur me fragmente, mais je peux bouger les jambes. Je ne suis pas paralysé. Blessé, mais pas paralysé. Soulagement. Je perds du sang. Une mare tiède se forme sous ma cuisse. J'ai deux balles dans les fesses ou en haut de la cuisse. Je ne sais pas si elles sont ressorties, mais je ne suis pas paralysé. Et là, il y a quelqu'un allongé derrière moi qui s'agrippe à mes chevilles. Je suis le bâton qu'il ou elle ne peut pas mordre pour s'empêcher de hurler. Faire le mort. Inerte. Survivre. Faire le mort.
Vous direz à François Hollande que c'est pour venger nos frères tombés en Syrie.
Ok. C'est des terroristes. Le mec n'a pas d'accent. J'ai un peu honte de le noter. Les médias écrivent qu'ils ont attaqué à 21h45, que vers 22h, un commissaire et un brigadier de la BAC entrent dans la salle arme au poing, qu'ils tirent sur celui qui m'a tiré dessus à 22h07, et que touché, il actionne sa ceinture d'explosifs. Moi, j'ai cru qu'il jetait des grenades depuis le balcon. Mais non, deux policiers viennent de sauver des dizaines de vies. Et après, le silence, épouvantable, épais, visqueux, comme un monstre qui s'ébroue, en soupir, en gémissement, en sanglots. Et après, des cris.
Venez me chercher! Mais vous attendez quoi, bordel? Il est en train de crever dans mes bras, là!
Et moi, je suis toujours couché sur le flanc, le visage contre la barrière métallique, et je vois contre le bar, genoux à terre, des hommes en armes, cagoulés. J'en vois un en particulier pile dans mon champ. Il a le regard dur des mecs prêts à en découdre. On est sauvés, putain. On est sauvés. Des mourants agonisent, des valides insultent, des blessés réclament de l'aide. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. Ça les démange. Mais c'est un ordre, ils sont soldats, ils ne bougent pas. Moi, je m'affaiblis, je m'impatiente aussi. J'ai peur que ma blessure soit grave. Pourquoi ils viennent pas nous chercher? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Je m'angoisse, je m'énerve tout seul dans mon sang. J'ai froid.
Bon, tous ceux qui peuvent sortir, vous venez vers nous, vite, vite, vite! Mais on peut pas bouger, putain! Et nous, on reste crevés ici, c'est ça?
Je me dis, je vais essayer de ramper. Impossible. Je dois attendre. C'est long. Et puis, deux hommes au-dessus de moi, allure de flic, tendu, nerveux. Ils me prennent chacun par une aisselle, sans ménagement. Ils me traînent dans les marches, sans aucun égard pour mon état. Ils m'engueulent presque de ne pas être assez coopératif. Et ils me déposent en haut de l'escalier du hall d'accueil. Une femme se penche sur moi. Elle m'auscute vite fait. Je crois qu'elle est médecin de la police. J'ai rien le temps de dire. Elle est déjà partie. Cent ans plus tard, on me porte sur un brancard. La douleur est indicible. Indicible. Mon cerveau se met en protection. Il m'envoie à moitié dans les vapes. Oh, la rue. De l'air, enfin. Le froid, les fourgons de police. Je suis sauvé. On va s'occuper de mes blessures. Enfin, c'est ce que je crois. Je ne pense à personne à ce moment-là. Je ne puise de courage dans aucun amour, aucune amitié. D'ailleurs, je ne puise pas de courage du tout. Je ne m'accroche pas à la vie non plus. Je ne prie pas. Je ne promets pas de devenir meilleur si je m'en sors. Je subis. Et j'attends, résigné, couché sur le sol. Le ciel d'encre au-dessus. À côté de moi, on dirait le bruit d'un défibrillateur. Ch'touf, bip, ch'touf, bip. J'ai l'impression qu'il est mort. Je claque des dents. Un pompier s'arrête. Il revient avec une couverture de survie. Il s'agenouille. Il n'a pas 25 ans. Cheveux courts, blonds. Le premier vrai contact humain depuis le début. Mon ange. Tenez bon, monsieur. Vous allez vous en sortir. On va s'occuper de vous. Il y a eu d'autres événements dans Paris. On n'est pas assez. Je peux poser ma tête sur votre cuisse? Bien sûr. Voilà. Restez avec moi, monsieur. On va s'occuper de vous. Il faut pas mourir seul. Il faut mourir la main dans une autre main. Une silhouette regarde l'étiquette que m'a collé le médecin dans le hall du Bataclan. On me transporte. On me repose. Autour de moi, c'est le foutoir, une impression de totale improvisation. Et on me charge dans un nouveau brancard. Et on me déplace à nouveau. La douleur, bordel! La douleur! Le brancard atteint un camion de pompiers. Il n'est pas prévu pour ça, ce camion. On me pose à l'arrière, sur une surface métallique en hauteur. Le secouriste a l'air en panique totale. Bordel, mais il est où? Restez tranquille, tout va bien. Je vais chercher mon chef, on peut pas partir sans lui. Il y a un autre gars avec moi, posé sur le sol. Il a l'air bien plus moribond que moi.
Accrochez-vous!
À quoi? Il n'y a pas de poignée, il n'y a pas de rambarde. Et c'est parti pour le trajet le plus ahurissant de mon existence. Dès le premier virage, je manque de m'écraser sur l'autre blessé en contrebas. L'impression de voyager dans une essoreuse, montée sur vérin hydraulique. Le Fangio grimpe sur les trottoirs, en redescend, change de direction, ça tape, ça cogne. Je vais mourir dans ce camion qui est censé me sauver. On me met sur un brancard. La douleur, bordel! La douleur!
Bonjour, monsieur. Blessure par balle?
Oui. Deux. J'ai entendu bam, bam. Mais j'apprendrai demain qu'une seule balle m'a touché.
Vous y tenez à votre jean?
Non. Moi qu'à mon cul. Clac, clac. Fin de mon jean préféré.
Ok, j'ai une transfusion là. On l'emmène au bloc.
Ça fait 5 heures que je perds mon sang. Je suis très faible. Le médecin-chef m'examine le fondement.
Il faut savoir si un projectile est resté dans le ventre.
Il me retourne et il commence à me palper.
Ok, trop musclé. Au scanner.
Je sais pas trop ce qui se passe ensuite. Peut-être une première opération, c'est pas sûr. Et un brancardier qui me fait monter au 11e étage. La nuit tire à sa fin. Je me réveille avec des fils, des sondes, des perfusions, des tuyaux partout. Ça m'angoisse. Comme les héros des films, j'aimerais me lever, tout arracher et sortir. De l'autre côté de la cloison, il y a un gamin de 24 ans qui a été traversé de haut en bas par une balle. Poumon perforé, moelle touchée. Il ne remarchera peut-être jamais. Je négocie pour éviter la sonde urinaire. Échec. J'apprendrai vite que les infirmières gagnent toujours. Et qu'un médecin dans un hôpital, ça se déplace rarement sans 4 ou 8 internes autour de lui.
Je pourrais sortir lundi, vous croyez ?
Ils éclatent de rire. Et quand je pose des questions sur mes blessures, ils esquivent. Ils savent pas où ils veulent me ménager. Je peux pas bouger la jambe droite. Est-ce que j'aurai des séquelles ? Personne ne veut se mouiller. Ou alors, c'est grave et on pense que je ne suis pas en état d'entendre la vérité. Je sens pas trop mes fesses, ni mon périnée, ni plus inquiétant mon sexe et mes testicules. Est-ce que je rebanderai un jour ? Cette question primordiale commence à me hanter. Et ça n'est que le début. Samedi 14 novembre, le lendemain, mes premières visites. Jeanne est là, avec Vincent et Charlotte. Ils n'ont appris qu'à 4 heures du matin que j'étais en vie. Je les aime. On me redescend au bloc. Je ne sais toujours rien de l'étendue des dégâts.
Il y a des complications, monsieur.
On m'a opéré des voies digestives. Interdiction de manger et de boire. Juste le droit de m'humecter les lèvres et la bouche.
Vous n'avalez rien, hein ? Je vous fais confiance.
Des visites. Delphine, Fred, Guillaume, Philou, Hubert, Manuel. Mes parents qui sont revenus du Vietnam. Des larmes, des sourires. Putain comme c'est bon. Pourquoi pas tous les jours ? Pourquoi attendre les drames ? Jour 3. État des forces en présence, faible. Statut, shooté. Avatar, légumes. Je suis pas prêt de sortir. Hein. Si la balle a trop salement fracturé la hanche, ça sera 45 jours. Je suis en marche du monde, désormais. Je ne vais pas quitter l'hôpital de sitôt et je ne bande toujours pas. De toute façon, avec le tuyau qui me sort de la verge, avec une poche en plastique au bout, vaut mieux. Ma première biscotte. C'est délicieux, une biscotte. Après 4 jours sans rien avaler, c'est la meilleure biscotte de toute ma vie. Je ne veux pas de télévision ni de journaux. Je subodore une bourrasque médiatique. Facile de les imaginer, hein. Les gros titres, les photos, le sang. Facile de les imaginer, les envoyés spéciaux à l'air grave, répétant en boucle le nombre de victimes, de blessés, de tireurs, les barbares à nos portes. Facile de les imaginer, les expressions dignes et solennelles de nos rentiers de la politique. Le 16 novembre à 21h36, je poste sur Facebook. Désolé pour ce que mon silence a fait flipper vendredi soir. Merci pour les messages de soutien. C'est beau l'amour en mouvement. Je n'ai rien fait d'héroïque, ni d'extraordinaire. Par contre, je vous jure que le jeune pompier qui me répétait de tenir bon alors que je tournais de l'œil dans la froidure, lui est un héros. Je ne bande plus. J'essaye d'éviter d'y penser. novembre, 8e jour. Conversation à plusieurs sur Facebook. Et la tête, ça va ? La tête ? Mais c'est au cul que j'ai été touché. Oui, je sais. Mais tu y repenses ? Tu fais des cauchemars ? T'as des angoisses ? Non. Rien de tout ça. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, je suis un miraculé. Mais je ne suis pas une victime. Alors qu'à 2 chambres de moi, Guillaume, qui est un peu plus mal en point que moi, mais rien d'irréparable, annonce qu'il va changer de vie, qu'il va plaquer son emploi, qu'il va plaquer Paris et tout recommencer.
Toi aussi, tu vas changer de vie ?
Non. Non, je suis heureux dans ma vie. Lui a besoin de parler du 13 novembre et de ses conséquences. pas moi. Madame B, la psychologue de la cellule de soutien aux victimes des attentats, est déçue que je n'ai ni cauchemar, ni panique nocturne. Un matin, elle pousse la porte de ma chambre.
Pouvons-nous nous parler, monsieur Larrère ?
Oui, mais vous allez quand même pas revenir tous les jours, si ?
Elle soupire. Elle pince les lèvres.
Je suis désolé, monsieur Larrère, mais je vous trouve vraiment trop joyeux.
Le prodige survient dans la nuit du 22 au 23 décembre, au milieu d'un rêve vaguement érotique. Ma main descend le long de mon ventre. J'allume ma lampe de chevet parce que mes yeux doivent confirmer ce que sent ma main. C'est-à-dire un semblant de raideur. Un enflement faiblard, piteux, sans doute impropre à la pénétration. Mais j'ai envie de brailler. Mon soulagement. Alléluia. Le matin, j'envoie un SMS triomphant à ma Jeanne. Je rebande. Mou, pas longtemps, mais je rebande. J'ai tiré cette histoire du livre d'Erwan Larrère chez Kidam Éditeur, le livre que je ne voulais pas écrire.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.